Il est présentement 9h34 minutes. Vous êtes à l'antenne de Marceau le matin sur les ondes de Boulevard 102. On le rappelle, le point de max qui suit de 10h à midi. On en jase avec Pascal CV, moi-même de midi à 14h. Et le retour de Gravel avec Denis Véraud et Audrey de 14h à 18h. Pascal, on en parlait avant la pause. Ça va vraiment pas bien pour la petite communauté de Petite-Rivière-Saint-François parce que les employés du massif sont en grève. Une grève illimitée qui a été déclarée le 2 janvier dernier. Là, même si on ouvre la montagne quelques heures par jour avec les gestionnaires de la montagne, ça ne suffit pas. C'est vraiment difficile à l'heure actuelle.
Oui, puis on s'entend que, je veux dire, les commerces roulent majoritairement durant cette saison-là. C'est un peu la vache à lait de la région.
Exactement. Et pour en parler, on a justement le maire de Petite-Rivière-Saint-François au bout du fil, M. Serge Bilodeau. M. Bilodeau, comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Ça va très bien. Monsieur Bilodeau, pouvez-vous nous exposer, même nous imager à quel point, à l'heure actuelle, la grève au massif fait cause des difficultés au sein de votre communauté?
Bien, c'est comme je pense que votre collègue l'a mentionné, c'est pas juste la communauté, c'est la région au total. Parce que c'est sûr que pour nous autres, la municipalité, 99% de notre économie est basée sur la location touristique. Ça veut dire que les gens qui ont des résidences touristiques, qu'ils louaient pour des gens qui venaient faire du ski au massif, ben là, ils peuvent plus à cause que c'est réservé seulement au temps plein, et ainsi de suite, et aux gens du Club Med. Mais l'impact aussi est ressenti à Ville-de-Baie-Saint-Paul, dans la région, parce que les gens qui louaient des résidences touristiques, ben ils iront pas faire leur épicerie, ils iront pas manger au restaurant, il y aura pas d'hébergement aussi à Ville-de-Baie-Saint-Paul. Fait que c'est pas juste la municipalité en tant que telle qui est impactée, c'est la région en totalité, là.
À plus petite échelle, est-ce qu'on pourrait comparer la problématique à celle, par exemple, du Canada avec l'imposition de tarifs ou autre? Est-ce qu'il faudrait que la région, puis est-ce que c'est possible pour la région qu'on ne mise pas nécessairement que sur le massif pour la suite des choses? Ma question, je ne veux pas du tout une attaque, mais plutôt une réflexion.
Ah, faites-vous-en pas, la réflexion est déjà même avancée, puis c'est justement un point de ma campagne électorale, c'est que présentement, vu que 99% c'est touristique, notre industrie ici à Petite-Rivière, fait que nous autres, c'est justement le schéma d'aménagement de la MRC est réouvert, on est en train de travailler pour avoir un nouveau schéma en 2027. Et présentement, comment ça fonctionne, c'est que tout ce qui s'appelle l'industrie était dans le parc industriel régional qui appelait, qui était à Saint-Urbain. Fait que là, nous autres, on veut justement faire éclater cette, comme on dit, ce monopole-là pour que justement des autres municipalités puissent avoir accès à une partie de l'industrie pour justement avoir une variété de salaires. Puis de cette façon-là, ben les familles vont être plus en mesure de vivre sur le territoire, ainsi de suite. Là. Je pense qu'on n'a pas besoin de convaincre personne que le monoculture, c'est pas bon, là. Peu importe dans quoi vous êtes. Là.
Mais justement, vous parlez de ça, M. Bilodeau, le gros du problème présentement en termes de négociation entre le massif et la partie syndicale, c'est les salaires, justement, des travailleurs qui sont des employés du massif. Comment vous voyez cette situation-là, vous? Est-ce que vous vous rangez d'un côté ou de l'autre?
Moi, je me prononce pas là-dessus. Je pense que il y a les journaux, il y a de l'information là-dessus. Moi, je me prononce pas là-dessus.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la région, en fait, de plus, en tant que consommateurs habituels qui y vont pas, mais aussi en tant qu'attraction? Est-ce qu'on reste touristique, on développe de manière un peu plus à ressembler à la ville de Québec, là? Puis là, je veux pas monter sur mes grands chevaux ou encore avoir des idées avec des lunettes roses, mais comment est-ce que la région peut à elle-même reprendre un peu son souffle?
Bien, je pense que dans le passé, il y a eu des modifications, comme on peut le voir, le parc industriel à Saint-Urbain, là, si vous parlez avec le maire de Saint-Urbain, là, il y a eu un éclatement à ce niveau-là. La dynamique de la municipalité a changé parce que, justement, ils ont été capables d'aller chercher des entreprises de volumineux, des entreprises importantes. Fait que ça a vraiment un changement. Ville-de-Baie-Saint-Paul, regarde, on a... comment ça s'appelle, suspension, tu sais, il y a quand même les microbrasseries. Je pense qu'on a déjà là-dessus, mais c'est qu'il faut justement aller chercher de nouvelles options. On est quand même juste à une heure de Québec, nous autres, là.
Mais oui, puis souvent, par contre...
On oublie ça, là, tu sais, Charlevoix, là, on, le monde pense qu'on vit dans le bois, là, mais on est juste à une heure de Québec.
Une heure de Québec, mais pour quelqu'un qui voudrait aller s'établir à Charlevoix, là, une heure de circulation, surtout quand tu arrives, mettons, à la hauteur de Sainte-Anne-de-Beaupré pour te rendre si tu travailles dans le Bourgneuf ou un peu plus loin. Des fois, la segmentation à ce niveau-là, elle est congestionnée, puis c'est de pire en pire. Donc, je comprendrais quelqu'un qui ne va pas s'installer nécessairement là-bas pour aller travailler à Québec. Cependant, y a beaucoup de moments où moi, je me promène dans diverses régions du Québec, puis je me dis, hey, les gens travaillent où ici? Parce qu'il y a toujours bien juste une petite épicerie du coin ou quelques attractions touristiques. Allez-y.
Oui, mais l'avantage qu'on a, ça sort avec Internet haute vitesse, on a beaucoup de télétravail. Là.
Oh, parlez-en pas aux fonctionnaires ces temps-ci, parce que là, vous allez...
Ah non.
non, les fonctionnaires sont fâchés de retourner au travail trois jours semaine, Monsieur Bilodeau.
Mais tu sais, vous posez la question, qu'est-ce que les gens, où est-ce qu'ils travaillent?
Mais ça a aidé.
C'est ça, c'est qu'on a, on a ça, mais c'est surprenant. Il y a des entreprises, puis l'autre chose aussi, c'est que, tu sais... l'objectif en région, peu importe la région, là, on parle de Charlevoix, mais mon autre emploi m'a permis de travailler à l'ensemble du Québec. Là, il y a des entreprises qui, ça n'a pas besoin d'être à Québec, ça peut être en région, puis ils vont avoir le même service, mais ainsi de suite. Là, fait que c'est ça qu'il faut voir. C'est l'attractivité, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut donner à ces entreprises-là, qu'est-ce qu'ils cherchent. Fait que tu sais, je pense qu'il y a un raisonnement au niveau du développement économique. Puis je pense que, en tout cas, à ma connaissance, depuis trois mois que je suis là, la MRC est quand même assez proactif là-dessus pour justement d'avoir une diversité, là, d'aller chercher d'autres apports économiques sur la MRC. Donc.
Vous venez justement d'être élu, M. Bilodeau, à titre de maire de Petite-Rivière-Saint-François. Dans quatre ans, voyez votre municipalité comment?
Donnez-moi un an, puis après ça, je vais vous parler ou ce que je l'avouais dans quatre ans.
OK, pourquoi? Il faut vous donner un an. Est-ce que vous avez des choses à négocier avec d'autres paliers de gouvernement?
Non. Je vous dirais, c'est que là, présentement, regarde, j'étais conseiller il y a quatre ans ici. Avec l'arrivée du Club Med, il y a beaucoup de changements qui s'est produit dans les quatre dernières années. Je pense qu'il y a une adaptation à faire au niveau de la gestion. Justement, garde, comme on parlait tantôt, là, modification du schéma d'aménagement pour permettre une partie industrielle sur le territoire. Fait que c'est pour ça que je vous dis, on a de la bureaucratie, appelons ça de même, à faire pour une première année. Moi, je l'appelle 2026, ça va être une année d'adaptation. Puis après ça, on va être plus en mesure de savoir où ce qu'on en est. Parce que là, présentement, il y a bien des choses qu'on ne sait pas où ce qu'on en a. On en est. Fait que pour moi, cette année, c'est une année de diagnostic aussi. Puis après ça, on va pouvoir dire, bon, OK, on met ça en place, on s'en va vers là, ainsi de suite. Là. Parce que même si je vous dirais, dans quatre ans, je voudrais être là, mais on est, je sais pas où on est présentement, là, officiellement. Là.
D'accord. Alors, on va y aller autrement pour la question. On va vous permettre de rêver, OK? S'il y a un projet, farfelu ou pas, que vous aimeriez implanter dans votre région, ce serait lequel? Là, oubliez les barrières, oubliez les gouvernements. Qu'est-ce que vous aimeriez pour votre région?
C'est mon priorité à cette année, justement, schéma d'aménagement, diversité économique, pouvoir aller chercher de l'industriel. Je parle pas de l'industriel lourd, mais ça peut être une diversité économique pour l'ensemble du territoire.
C'est plate. Non, je fais des farces à vous dire. C'est super. C'est vraiment un projet, le fun pour les gens qui vont y vivre, puis les gens qui veulent y vivre aussi. La recherche de la région qui est de plus en plus attractive. Mais ma blague, je la faisais plutôt sur... Peut-être le concret, pour ceux qui nous écoutent, là, ce serait d'avoir des industries qui viennent vraiment s'installer en plus grand nombre dans votre région et donc création d'emplois.
Oui. Puis la chose aussi, tu sais, la municipalité, par le passé, là, je ne sais pas si vous êtes au courant de notre région, mais on a eu Nina qui appelle ça un boom de développement. Moi, j'appelle ça plus un boom de lotissement. Là. On a quand même alentour de 1000 terrains là, disponibles là, sur l'ensemble du territoire, là.
Donc, la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François pourrait s'agrandir assez rapidement s'il y a des industries qui viennent s'installer.
Oui, les infrastructures, les routes sont déjà là. Puis c'est un de nos problèmes présentement, c'est que notre taux d'occupation, c'est que le développement s'est fait, l'explosion a été faite au lieu de par phase, il allait par un projet majeur. Tu sais, je prends comme exemple le projet du FIEF qui est pas loin du massif, c'est 400 terrains. Là.
OK. Bon, ben moi, ce que je vais vous souhaiter aussi, c'est une meilleure circulation quand il y a des travaux qui sont nécessaires, assurément, là, dans votre coin. Ça peut quand même faire souffler une couple de personnes et de touristes. Donc, je vous souhaite des routes où ça se passe bien, que c'est fluide et le plus rapidement possible sur tout le secteur de votre territoire.
Oui, puis dans ce sens-là, pour ne pas utiliser le terme que vous utilisez dans la région de Québec, bon, on est en train justement de regarder faciliter ça, des liens entre les développements, des liens entre le fief puis le village, fait que
on veut pas de congestion.
Le troisième lien est dans Charlevoix aussi.
En effet, monsieur.
Bonne chance.
Ouais, exactement. Bonne chance avec le troisième lien. Il est plus central présentement.
On va demander moins d'études. Ça va peut-être demander moins d'études.
On vous envoie Geneviève Guilbeault. Elle va vous aider.
OK.
Bonne fin de journée.
Merci beaucoup.
Merci, monsieur Bilodeau.
Il y a moyen de la payer, elle-là.
Merci, monsieur Bilodeau. Passez une belle fin de journée.
Au plaisir.
Au revoir. Okay, bonne journée. Serge Bilodeau est maire de la communauté de la Petite Rivière Saint-François, évidemment. Une communauté très touchée par la grève présentement illimitée qui est liée au massif. J'adore les maires de région. Ils n'ont jamais la langue dans leur poche.
Ouais,
on parle langue de bois. Je n'engagerai pas pour l'argent, je ne viens qu'il beau. On n'en veut pas de congestion. J'adore ça.
Assurément qu'il vient d'être en poste. Alors peut-être la langue de bois, ça s'applique plus tard. Mais non, j'avoue, puis il en parlait, il a déjà eu un rôle, tiens, un petit peu plus diplomatique là, par le passé dans son CV. Sauf que oui. Puis moi, ce que j'apprécie, c'est qu'on est capable de lui dire exactement ce qu'on pense, à tort ou à raison, mais il est capable aussi de nous répondre. Puis, tu sais, à un moment donné, je disais, bon, concrètement, c'est quoi? Parce que des projets économiques, de développement économique, tout le monde en souhaite. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans cette région-là? Puis pendant qu'on parlait, tu sais, les routes, ça fait bien jaser. Mais moi, ma sœur à Sept-Îles, là, sur la Côte-Nord, c'est souvent par là que je passe depuis des années. Ça fait maintenant 8 ans qu'elle y est, chaque été. Chaque été, il y a une segmentation de route qui, avec des lumières par intervalle, nous font attendre. Hey, parfois, là, c'est 30, 40, une heure et demie au bateau, là.
Donc, on ne devient pas attractif.
Matane, au bateau, excusez-moi, à Sainte-Catherine, là.
Oui, oui.
Loin d'être facile. Il faut que tu arrives avec des heures où ça se passe bien, parce que sinon, ça peut être 3 heures à 34 degrés.
Exactement. Où t'attends, puis là, t'es dans ta voiture, t'as rien à faire, puis tu te demandes quand est-ce que tu vas passer. Donc, en effet, on est loin d'être attractif. Ce qui est intéressant pour Petite Rivière Saint-François que je voyais, c'est le fait qu'il y a déjà du lotissement, il y a déjà des infrastructures qui sont construites. Donc, on tombe en année électorale. On parle énormément des régions. Il faut prendre soin des régions. Puis tous les partis politiques le mentionnent. Et c'est vraiment le cas, là. Il faut vraiment porter une attention particulière à nos régions.
Puis les jeunes aiment la région. Il y a une migration. Tu sais, Montréal a perdu beaucoup d'habitants. Nous, ici à Québec, ben là, ça grouille un peu aussi. Mais regarde les organismes comme Place aux jeunes en région. Là, c'est semi-gouvernemental. Énormément d'appels depuis la pandémie. Les gens voulaient vivre dans des espaces verts. Ils voulaient plus se casser la tête avec des routes congestionnées, avec le trafic. Ils sont allés en région, puis finalement, ils ont découvert une super belle qualité de vie.
Ben oui.
Les îles de la Madeleine, bon, on s'entend, c'est pas des quantités astronomiques. J'aimerais avoir le pourcentage exact. Sauf que le nombre de jeunes qui sont allés s'établir là et qui restent à l'année, pas juste pour l'été, la saison estivale, est énorme.
Ben oui. Moi, on parle de Charlevoix, là. Le centre-ville, la rue principale de Baie-Saint-Paul. On va jouer au hockey une fois par année là, et c'est sûr que j'y reste pour la soirée.
Ah oui, c'est tellement plaisant.
M'en promener là, on se prend un petit resto, on est une gang de parents avec les jeunes. Mm-hmm. C'est dynamique, c'est plaisant, c'est beau, c'est apaisant.
Le festif, oui. Quel succès! Victime même de son succès.
Oui, victime de son succès. Est rendu, le festif est trop petit en termes d'infrastructure pour le monde qui veut y aller.
Il y a un chef aussi qui est revenu dans le coin, en fait, un chef hyper réputé qui revient pour aller travailler du côté de Baie-Saint-Paul. Hey, salut, il s'appelle Hugues Dufour, puis c'est un très, très, très prisé, en fait, qui a décidé de se représenter, en fait, dans la région, puis... Retour marquant dans le monde culinaire. On voit que ça intéresse même ces gens-là. L'agriculture effervescente aussi. je pense qu'il y a beaucoup à donner d'amour, ouais, parce qu'eux tentent d'en donner beaucoup.
Alors, tout ça pour dire qu'on va souhaiter que ça se règle rapidement au Massif, parce qu'en attendant qu'il y ait des industries, puis que ces 1000 terrains, il y ait une maison dessus ou des condos, bien, petite Rivière-Saint-François a besoin de son Massif, donc on va souhaiter que ça se règle rapidement.
Vois-tu, malgré le petit détour que ça amène, quelqu'un, ouais, qui dit « je monte à Sept-Îles deux fois par année pour la job, depuis 2 ans, je passe par Saguenay ».
Par Saguenay. Curé,
oui.
Ben oui, parce que justement, ça, c'est quelque chose qui lui permet d'éviter ce 3 heures-là par bateau. Mm-hmm. Je vous rappelle au sport que le Canadien de Montréal joue ce soir contre les Panthers de la Floride. Le Canadien l'a emporté hier 4-1 contre les Flames de Calgary. Donc, Montréal va tenter d'y aller d'une 3e victoire consécutive vu qu'il l'avait emporté à Dallas dimanche dernier. 4-3 en prolongation. Joueur à surveiller chez les Panthers, évidemment, Brad Marchand, qui va porter les couleurs d'équipe Canada. 46 points depuis le début de la saison, 23 buts, 23 passes. Et pour le Canadien, le meilleur pointeur, c'est un autre joueur qui va porter les couleurs d'équipe Canada, Pascal. Nick Suzuki, 14 buts, 33 passes, 47 points. On a très, 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 très hâte à ce tournoi olympique. Il y a plusieurs matchs dans la Ligue nationale. Ce soir, on va surveiller si les Oilers d'Edmonton vont infliger une 11e défaite de suite aux Jets de Winnipeg et si les Sénateurs d'Ottawa vont être capables de battre l'Avalanche du Colorado. Ce serait une première défaite en temps régulier si ça arrive pour l'Avalanche à demi. Dans l'actualité, qu'est-ce qu'on suit, Pascal?
Je te parle d'Ozempic dans quelques minutes. D'abord, je vais faire le tour de ce meurtre au Mexique. C'est un trafiquant québécois qui a été tué.
Oui.
2 tirs, 2 balles dans la tête. C'est super tragique. Mais quand même, ça fait encore jaser de ce qui est aussi tragique, soit le commerce de trafiquants. Hein. Et il était bien connu du milieu policier dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, assassiné à sa sortie d'une salle de sport. Alors, c'était mardi dernier que ça s'est passé. Il s'appelle Jonathan Bouchard, en pleine rue, dans ce qu'on appelle le quartier 5 de Diciembre, à Puerto Vallarta. Il avait 32 ans. Comme je te disais, il vaquait à ses occupations parce qu'il sortait de la salle de sport, soit le gym. Là. Mm-hmm. Et voilà qu'il a été assassiné autour de 11h20. Le journaliste Adrián de los Santos, c'est un média local, en fait, dans le coin, qui a d'abord diffusé la nouvelle. Et après, on s'est rendu compte que finalement, c'est un Québécois. Il y avait un avocat, Maître Pierre Gagnon, et bon, il a dit que c'était 2 tirs mortels en pleine tête, loin d'être un événement où on s'est trompé sur la personne.
Oui, c'est là. Ça. Il n'y a pas erreur sur la personne.
Non, il a été attaqué au moins par un individu. Il a pris la fuite et on considère le tout comme un meurtre d'étranger. L'événement a nécessité donc le déploiement de plusieurs organisations policières. Aucun suspect appréhendé, comme je vous disais, pour le moment. Et Jonathan Bouchard, il y a une 12aine de dossiers criminels à son nom qui étaient actifs, notamment condamné à 40 mois de prison en 2019 à la suite de l'opération Palme. Ça, c'est une opération où il avait été arrêté avec sa mère, son frère et 3 autres complices reconnus coupables de trafic de substances, de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic, de possession et de distribution de cannabis. Puis là, j'en ajoute, là, c'est vraiment pas une belle jambe, un beau CV pour l'homme. Mais voilà, alors ça se concrétise, hein? Le trafic de stupéfiants, c'est pas juste ici, c'est pas juste à Montréal, c'est aussi partout en province. Et maintenant, on apprend ce genre de règlement de compte-là à l'international.
Oui, et surtout, je sais qu'à cette heure-là, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui nous écoutent, mais les parents, soyez attentifs à vos enfants parce qu'on le sait, le recrutement se fait de plus en plus jeune dans les gangs criminalisés. Et c'est l'attrait, c'est l'appât du gain. Hein? Tu sais, je vais faire de l'argent rapidement, je vais faire de l'argent facilement, je vais faire partie d'une gang, mais dans le crime, ben, il y a la prison, mais il n'y a pas juste la prison. Il y a des fois des ennemis aussi qui t'attendent et qui mettent fin à ta vie. Donc, soyons attentifs avec nos jeunes.
C'est sorti en novembre dernier, distribution par Mathieu Arsenault, entre autres, Crime désorganisé. C'est un documentaire où on suit des policiers au cœur de la délinquance juvénile. Alors, si ça vous tente, c'est super bien fait sur Illico Plus et autres, mais ça a été produit puis diffusé. Entre autres, Apple TV a la série, mais c'est super intéressant, autant qu'on suit un jeune qui s'appelle Jonathan, qui a 17 ans, qui a été arrêté à partir de son entrée en centre jeunesse. On s'en va aussi dans les pénitenciers et on parle aux intervenants sur le terrain. Moi, je vous le conseille. Très avancé dans la série. Crime désorganisé. 2 points au cœur de la délinquance juvénile.
Merci pour la suggestion.
En nouvelle, ben, retour en présentiel. 3 jours demandés, 3 jours par semaine pour les fonctionnaires. On fait une blague avec notre dernière invitée. Mais les fonctionnaires sont fâchés. Ils anticipent une baisse de productivité puis des démissions. 63 % des employés qui ont été sondés se disent en désaccord, si on veut, avec le tout. Et 71 même disent qu'il y aura une diminution de l'intention de rester en poste. Et pour certains, on dit, ben là, c'est le gouvernement Legault qui veut qu'on démissionne parce qu'il soupçonne François Legault de vouloir inciter ses employés-là à démissionner pour réduire la taille de l'État. Donc, ce serait comme une démission forcée pour eux. Et ils vont peut-être même aller en cours avec tout ça. Le président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Christian Daigle, était en entrevue avec le bureau parlementaire de Québécois, puis il disait, ben là, à l'heure actuelle, les employés de l'État sont tenus de se rendre dans les tours de bureaux gouvernementaux que 2 jours semaine. Maintenant...
Ça va être 3 jours.
Ça va être 3. Et il y a de la grogne. Il y a de la grogne.
Pour un jour de plus, exactement.
Maxime aura Marc...
Oui, Marc Rangé.
Rangé dans son émission plus tard.
Spécialiste en relations syndicales.
Exact.
Ex-directeur du syndicat de la fonction publique canadienne. Pas mal convaincu que Marc va dire « Hey là, c'est exagéré ça. »
Moi, ça me fascine parce que j'aimerais ça entendre les gens sur le terrain. Mais tu sais, pas des chialus de catégorie A. Là, moi, pour ça, on en connaît tous là, sur divers sujets. Moi, j'appelle les quirulants. Là, t'en as à ville ici, t'en as dans ta vie.
En effet.
Des fois, t'en es un toi-même. Mais dans le sondage maison qui a été fait par la FPGQ auprès des membres qui clament que ça fait pas de sens là, qu'on retourne 3 jours en présentiel pour travailler... Écoute les pourcentages. 87 % prévoient une hausse du stress et de la fatigue. 82 % anticipent une détérioration de la conciliation entre travail et vie personnelle.
Oui.
Probablement, OK, ils se sont habitués à certaines choses. 63 % s'attendent à une baisse de productivité individuelle.
Oh, ça en m'étonne.
Étant, peut-être parce que vous allez passer trop de temps à la machine à café?
Oui, c'est ça.
Ça,
pour moi, c'est plus comportemental.
71 % envisagent une diminution de la rétention, donc le fait de rester en poste. 75 % prédisent une baisse de l'attractivité de la fonction publique pour le recrutement, puis 58 % disent qu'ils vont travailler la majorité du temps seul dans leur journée en présentiel, donc ça fait pas vraiment changement. Tu sais, moi, je veux pas rire, mettons, de la première statistique, là, le 87 % qui prévoit une hausse du stress puis de la fatigue, mais c'est mon premier réflexe. Jusqu'à temps que quelqu'un me convainque puis m'amène des arguments, s'il vous plaît, parce que littéralement, en ce moment, je serais un peu jaune, je veux pas rire de vous, mais convainquez-moi.
Mais tu sais, je veux dire, en tout cas, pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a rien de stressant à aller travailler avec tes collègues de travail.
À moins qu'on ait vraiment oublié quelque chose, là.
C'est ça.
Si on est perdu et on est dans la mauvaise foi ou on ne comprend pas, 88-971-1021, éduquez-nous.
Oui,
parce que vous
aidez-nous.
Êtes 87% à penser que vous allez être stressé et fatigué.
Tu vois Pascal qui écrit, c'est pas une obligation, c'est un droit de gestion, en effet. Le télétravail, c'est un droit de gestion, on en parlait tout à l'heure. Carl qui écrit, pendant la COVID, on en a parlé que pour des considérations environnementales, ça allait contribuer au changement climatique, le fait qu'il y ait moins de déplacements. Donc, on voit que l'environnement n'est plus si urgent. Mais bon.
Merci pour votre commentaire.
Exactement.
Je vais venir avec Ozempic.
Bien sûr.
Expiration du brevet.
Expiration du brevet d'Ozempic.
Alors, la guerre des prix est lancée, mesdames et messieurs. Il n'y aura plus d'exclusivité pour Novo Nordisk, qui est, sur la molécule là, à la base d'Ozempic. La molécule s'appelle la semaglutide. Mais ça touche à sa fin au Canada, cette exclusivité-là. Donc, le brevet qui protège l'ingrédient du médicament contre le diabète, mais bon, très populaire, là, c'est terminé à partir du 4 janvier. Alors, Santé Canada confirme qu'on examine maintenant 9 demandes d'homologation pour plein de génériques sur le semaglutide, dont celle de Sandoz Canada, Apotex, Teva Canada, bon, etc. Mais là, il va y avoir de la compétition, mesdames et messieurs. Est-ce que le prix va baisser? Peut-être. On va s'attaquer au marché, c'est certain.
Martin qui conclut sur le télétravail. 87 % sont stressés, fatigués, tabouis, venez pas travailler au privé. Bon, je laisse à Martin ce commentaire, mais je dirais que je le comprends pas, le 87 % de stress. Bon, peut-être un stress dans les déplacements, mais ça fait partie de la vie, guys. C'est ça, la vie. C'est de se déplacer avec nos enfants, d'aller porter puis d'aller travailler après. Donc, vraiment, c'est tout simplement ça. C'est comme ça qu'on a été fondé la société avec des entreprises où les gens vont travailler, font du social, travaillent, performent ensemble, voient leur patron, puis par la suite, bien, retournent à la maison pour profiter de la famille, du chum ou de la blonde.
Ah, ça, c'est pas correct, l'auditeur qui nous écrit.
Qu'est-ce qu'il nous écrit?
Une amie de sa belle-sœur qui est fâchée parce qu'elle n'a pas pu faire une autre job en dessous de la table sur les heures de job du gouvernement.
Oui, en effet.
Ça doit être un faible pourcentage.
Oui, il y a Alain qui écrit, puis il a raison. Je suis en télétravail au privé depuis 2019. Ma productivité est vraiment top à la maison. Il parle les réunions qui s'éternisaient pour rien autour d'une table. Ça, c'est vrai. Je l'ai vécu dans des organisations. Mais bon, J'ai vécu aussi des réunions qui s'éternisent pour rien sur Teams ou sur Zoom parce que ça fait longtemps que tu n'as pas vu ton collègue et tu t'informes de sa famille.
Oui, puis j'ai vécu du monde qui glande à la maison, pareil, sur le télétravail parce que les tâches, ben ils sont finies. Ou encore, il n'y en a pas assez. Ou encore, ils ne sont pas sur Teams.
Exactement. C'est un droit de gestion, tout simplement. Et puis, je sais qu'il y en a des adeptes du télétravail à chaque fois que je sais qu'ils disent « Ah, mais là, ma qualité de vie! » Mais c'est comme ça, c'est un droit de gestion. Et c'est le gestionnaire qui signe votre chèque de paye puis qui vous permet de vivre par la suite. Parce Pascal Cévin, on s'en parle dans 2 heures?
Oui.
Dans l'émission On en jase à midi. Le point de Max suit immédiatement de 10h à midi. Marc Rangé, spécialiste en relations syndicales, sera avec Max Laroche. Et Catherine Dubois, l'excellente joueuse de la victoire, va être avec Max également. La victoire qui est en visite au Centre Vidéotron ce dimanche.
Joueuse de hockey féminin professionnel.
Oui, en plein ça. Merci pour la précision, Pascal Cévin. On se reparle à midi. En attendant, merci d'être sur les ondes de Boulevard 101. Bye-bye, guys. Marceau.